consoler mon peuple. Ces mots ouvrent la deuxième partie du livre d'Isaïe, écrite à la fin de l'exil à Babylone. Ils ouvrent également un avenir au peuple de Dieu, alors que ce dernier se croyait irrémédiablement perdu à cause de ses péchés, donc trop éloigné de Dieu pour que celui-ci intervienne en sa faveur. Mais la colère de Dieu ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie, comme l'affirme le psalmiste. Consolez, consolez mon peuple. Ce sont les mots d'un Dieu plein de miséricorde, qui fait surabonder la grâce là où avait abondé le péché. Jérusalem, outragée, brisée et martyrisée par les Babyloniens, avait pu se croire réprouvée quand c'est elle qui s'était éloignée des chemins de Dieu. Ce dernier fait annoncer son retour dans la ville en compagnie des exilés. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Consolez, consolez mon peuple. Ces mots appartiennent à un roi ou à un pasteur, comme le suggère la belle comparaison entre Dieu et un berger. Depuis David, lui-même, petit berger de Bethléem devenu l'archétype du roi selon le cœur de Dieu, les fonctions royales et pastorales servent aussi à parler de l'action divine auprès de son peuple. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Consolez, consolez mon peuple. Nous pourrions également parler d'une demande avant tout paternelle qui s'adresse à nous, les enfants de Dieu, à la fois comme consolateur et comme consolé. Comme consolateur, nous pouvons nous mettre à la suite de tous ceux qui portent la bonne nouvelle. À la suite du messager anonyme du livre d'Isaïe, envoyé annoncer à Jérusalem la venue prochaine du Seigneur, berger d'Israël. À la suite de Jean le Baptiste, précurseur d'un plus fort que lui, venant derrière lui pour baptiser dans l'Esprit Saint. À la suite de l'apôtre Pierre, exhortant les destinataires de sa lettre à ne pas croire les maîtres de mensonges qui mettent en doute la promesse du Christ de revenir pour établir un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Les trois figures de consolateurs que dessinent les textes de ce jour nous parlent donc d'une bonne nouvelle. Plus précisément, de l'Évangile, la bonne nouvelle qu'est Dieu lui-même. Elle nous invite à devenir des précurseurs qui préparent le chemin du Seigneur. Et nous, comment présentons-nous l'Évangile à ceux qui nous entourent? Comment, par nos paroles et peut-être davantage par nos actes, osons-nous témoigner du salut de Dieu? Peut-être, avant de consoler, avons-nous besoin d'être consolés? Avant d'aller parler au cœur de nos Jérusalem d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans les lieux où se concentrent à la fois les hommes et les besoins spirituels. Avant même d'aller parler aux personnes reléguées dans les périphéries existentielles, si souvent évoquées par le pape François, là où nous trouverons les plus petits auxquels s'identifie Jésus, avant cela, il nous faut emprunter le chemin de Dieu où il nous attend. Or, ce chemin passe par le désert. Le désert apparaît d'abord comme un lieu aride et dangereux, où la vie est difficile. Il symbolise la tentation, rappelons-nous les 40 jours du Christ au désert. Il symbolise la mort. Le désert se révèle aussi comme le lieu de l'histoire sainte, où Dieu éduque son peuple. Évoquons maintenant les 40 ans d'Israël au désert. Le désert constitue enfin le lieu du refuge et de la solitude propice au dialogue avec Dieu. Et là, je pense au repos des apôtres avec Jésus à leur retour de mission. Venez à l'écart, au désert, et reposez-vous, dit le Christ à ses apôtres. Dans le silence et le dépouillement du désert, Dieu nous invite à la conversion. La voix de celui qui crie dans le désert ne s'élève pas en vain, puisque toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient à lui. Au contraire, aucun bruit ne vient parasiter l'annonce de l'Évangile dans le désert. Cet état de fait explique sans doute la demande croissante d'accueil enregistrée par les abbayes et le centre spirituel, ou bien la fréquentation jamais démentie de nos églises. Venez, par exemple, un dimanche après-midi à la cathédrale. Vous y verrez bien des gens en quête d'un désert pour être en contact avec Dieu. La conversion dont il est question, c'est celle qui nous est demandée en ce temps d'attente et de pénitence qu'est l'Avent. Pour nous préparer à la venue du Seigneur, il faut tracer droit une route dans notre cœur, en y comblant les ravins du doute, en y arasant les montagnes de l'orgueil, en y corrigeant les sinuosités du mensonge. Pour ce faire, n'hésitons pas à recourir au sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Pour peu que nous reconnaissions que nous sommes humblement pécheurs, comme autrefois Jérusalem avouait ses fautes, le Seigneur ne manquera pas de nous consoler. Mais parce que Noël nous oriente aussi vers l'ultime retour du Christ Jésus dans la gloire, et que notre temps représente comme un temps de désert où nous avançons vers la terre promise et la Jérusalem céleste, nous comprenons que consolation et conversion, ces deux faces d'une même réalité, sont des états permanents du chrétien. Puisqu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, Dieu ne cessera jamais de faire entendre sa parole. Consolez, consolez mon peuple. Amen.